Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre d'une femme qui a décidé de se faire un cadeau en accouchant de ses émotions. Un cadeau pour elle, mais aussi une lueur d'espoir pour tous ceux et celles qui passent par des moments compliqués tels qu'un deuil. On y va pour les détails.
Média, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Samia Benchkroun, bonjour.
Bonjour, comment vas-tu?
Ça va, Lala Samia, merci infiniment d'être ma femme d'aujourd'hui et merci infiniment de venir nourrir notre communauté de femmes d'aujourd'hui. Comment ça va?
Merci à vous, en tout cas, ça va, je vais très bien, et vous-même?
Ça va, bien. Alors, est-ce que, justement, vous dites « je vais très bien », ça veut dire quoi « aller très bien » pour vous?
Alors, aller très bien, déjà, c'est avoir une bonne santé, c'est d'être entouré par les gens qu'on aime, c'est d'avoir beaucoup de gratitude envers l'univers, envers Dieu et envers tous les gens qui nous apprécient pour notre propre valeur. Donc, pour moi, c'est déjà ça. Mmh.
Et c'est aussi le fait d'avoir fait son deuil?
Tout à fait, exactement, ouais. D'avoir enfin guéri.
Exactement. On dit qu'un deuil passe par plusieurs étapes.
Tout à fait.
Le refus, le déni, la tristesse, la colère et après l'acceptation. Vous les avez vraiment vécues, ces différentes étapes?
Tout à fait. Alors, j'ai pleinement, disons, vécu chaque étape,
ouais.
Que ce soit le refus, mais en tout cas, la plus délicate des étapes, c'est l'acceptation. Parce que, en fait, disons que c'est un process qui est naturel chez tout le monde. D'ailleurs, par là même, je tiens à vraiment dire aux personnes et aux gens qui vivent ça que c'est tout à fait normal, qu'on refuse la chose, qu'on essaye de marchander avec nos émotions, qu'on essaye de montrer au monde qu'on accepte, mais qu'on n'accepte pas au fond. Mais la plus difficile étape, c'est l'acceptation. C'est accepter qu'on est à Dieu et qu'on lui retourne, et en même temps que des fois il y a même, parce qu'aujourd'hui on parle même de deuil vis-à-vis de personnes qui sont toujours en vie, on ne parle pas que de personnes qui sont mortes, mais en tout cas il y aura un moment où l'étape la plus difficile, c'est l'acceptation, et c'est là où il y a plusieurs outils et plusieurs thérapies à faire avec soi-même pour effectivement arriver au stade de guérison, comme on a dit.
Alors, Samia Benchkroun, à la base, vous êtes docteur en sciences de gestion. Et là, en discutant avec vous, les gens ont dû se dire, ça doit sûrement être une thérapeute. Ce n'est pas une thérapeute. Samia n'est pas une thérapeute. Samia est passée par toutes ces phases. Et justement, vous venez de sortir votre premier livre. C'est votre premier livre ou ça sera votre seul livre?
Non, je dirais que c'est l'aventure commence.
L'aventure,
oui. Exactement.
Alors, j'explique justement. Le livre s'appelle « Le cancer m'a volé mon cher ».
Exactement.
C'est un livre que vous avez écrit sur après le départ
sur
de votre papa.
Père.
Voilà.
Sur mon cher père, qui effectivement a eu une aventure assez difficile, disons, avec le cancer, qui a pu, en fait... pourquoi j'écris ce livre? Parce que j'ai voulu profiter à tout le monde de cette expérience qui paraît, en tout cas à travers le titre, assez triste. Mais en tout cas, c'est plus un guide spirituel vers la guérison, vers la résilience, vers la recherche du bonheur. C'est vrai que la première partie, elle décrit l'histoire de Alia. Qui est finalement Samia. et du coup, c'est vrai que on raconte les détails les détails de la maladie, de l'aventure inlassable avec le cancer, qui a finalement, disons, gagné et a emporté notre chair. Mais la deuxième partie, c'est plus un socle de connaissances thérapeutiques, une sorte de coaching, c'est là en fait où j'offre les 6 joyaux de la vie. Donc, je dirais la gratitude, le pardon, l'acceptation. Et je vous laisse les 3 autres pour acheter le livre et pour le lire surtout.
En plus, il y a une raison noble derrière. le fait d'acheter ce
bien
livre.
Bien sûr. Exactement. En fait, déjà, je l'ai, c'est plus un cadeau pour tous les vainqueurs du cancer, mais aussi pour toutes les personnes qui, que ce soit eux ou leur famille, souffrent de cette maladie aujourd'hui, qui est curable finalement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est curable, mais chacun dans la vie l'a vécu autrement. Mmh. En fait, dans toutes nos familles aujourd'hui, on trouvera quelqu'un qui a perdu sa tante, sa maman, sa grand-mère, etc. Donc c'est vraiment une histoire avec laquelle tout le monde a un souvenir, disons. Et donc, c'était non seulement un cadeau pour les héros du cancer, parce que franchement, moi, j'ai découvert une résilience incroyable de mon père, qui a été une source d'inspiration pour moi, pour la famille, etc. Et donc, c'est là où j'ai décidé de partager ça avec le monde. Et ça a été toujours mon petit rêve de commencer. En tout cas, j'étais sûre que j'allais publier un jour un livre. Je n'avais aucune idée du titre. Mais le concours des circonstances a fait que mon premier livre, c'est pour mon père, Marhmo. Et en tout cas, ce n'est que le début de l'aventure, parce que je suis une passionnée d'écriture.
Alors Samia Benchkoroun, voilà. Vous êtes une docteure en sciences de gestion. Et dans ce livre, c'est aussi peut-être, en quelque sorte, un manuel de gestion du deuil, de votre deuil.
Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Alors, en fait, effectivement, moi, j'ai eu mon master en audit et contrôle de gestion, donc ça n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, mais ou du moins, j'ai pu avoir la technicité de tout ce qui est analyse, etc., et ce sens de curiosité aussi. Par la suite, j'ai vu que j'avais j'aimais beaucoup cette touche humaine, c'est-à-dire que j'étais plus amenée à être dans les ressources humaines. Donc, je devais compléter ma formation à travers un doctorat que j'ai fait effectivement à l'ISCAE. Je me suis spécialisée dans le bien-être au travail, ou du moins le bien-être de manière générale. Donc, j'ai exploré les profondeurs de la psychologie humaine, ses dynamiques sociales, tout ça pour dévoiler, en fait, finalement, les clés du bonheur et de la sagesse. Vous voyez, donc finalement, ce côté, du doctorat, etc., avec cette méthodologie de sciences de gestion et la démarche pour écrire ma thèse, m'a permis en même temps d'écrire un livre avec une certaine,
rigueur
derrière, ouais. Une méthodologie, une rigueur, exactement.
Ouais, ouais, ouais.
Donc,
Est-ce que vous êtes de celles et ceux qui croient que rien n'arrive par hasard, dans le sens où ce chemin académique vous préparez aussi à cette expérience de la vie?
Moi, je dirais aujourd'hui, oui, effectivement, je suis des partisans qui disent que rien ne vient par hasard et que tout est calculé par l'univers et par le bon Dieu. Ça dépend en fait de la spiritualité de chacun, je dirais plus l'univers. Mais en tout cas, je suis sûre qu'il n'y a pas de rencontre au hasard, qu'il n'y a pas en fait de chemin qui vient comme ça. Tout est calculé je dirais en fait que toutes les expériences par lesquelles je suis passée, aujourd'hui je suis I'm grateful, c'est-à-dire que vraiment pour moi je me dis alhamdoulillah, parce que c'est ce qui a fait le produit de Samia Benchkoroun aujourd'hui. Sinon, j'aurais pas du tout été pareil. Je remercie chaque expérience et chaque en fait bout du chemin, parce que c'est ce qui fait qu'on forge notre personnalité. On se prépare à toutes les expériences. On embrasse en fait la vie d'une certaine gratitude incroyable, et surtout on apprécie les petits moments. C'est que maintenant qu'on se rend compte, il y a comme un wake up call qui fait que on est très content de nous acheter par exemple des fleurs, de passer un bon moment avec une amie, un ami, et donc c'est ça en fait le secret finalement. C'est vraiment d'être en pleine conscience pour chaque petit bout de chemin, chaque rencontre, chaque petit événement. Donc c'est ça en fait.
Alors Samia, vous avez perdu votre père. Et ce n'est pas que votre père, c'est le père de toute une fratrie. C'est l'époux de votre mère. Vous parlez de votre chemin de guérison. Finalement, votre deuil est passé par l'écriture d'un livre. L'écriture de ce livre a été possible aussi à travers la rigueur acquise au cours de vos études, de vos années d'études. Pourquoi je mets ça dans ce contexte-là? Parce que on fait un deuil personnel, mais il y a aussi le deuil des autres personnes et il y a aussi le deuil de la famille. C'est une forme de deuil communautaire. Beaucoup de personnes sont dans ce cas de figure. C'est des deuils à différentes vitesses, en fait. On ne va pas tous en même temps. On n'avance pas, on n'atteint pas tous les mêmes étapes en même temps.
Tout à fait. Exactement, j'entends ce que vous dites et c'est très pertinent ce que vous êtes en train de d'expliquer. Ben effectivement, alors dans l'histoire de Alia, effectivement, elle a deux sœurs et un petit frère et bien sûr la maman. Et donc en croisant l'histoire de toute cette fratrie, chacun a fait son deuil différemment. Mmh. Et donc avant d'écrire le livre, effectivement, c'était des heures d'écoute avec chacun, de façon à retranscrire leurs émotions et être le plus proche, disons, de ce qu'ils ont vécu. Mais c'est vrai, en fait, que finalement, le process est le même, mais chacun comment il le vit. Il y a des personnes qui pensent qu'ils ont rapidement accepté, mais finalement, ils reviennent au refus, ils reviennent à la colère. Donc, en fait, c'est le même process, mais chacun... il a le temps, en fait, il consacre un certain temps pour une étape du process. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous parlez de Sherazade, la sœur de Alia dans le livre, c'est quelqu'un qui a toujours montré qu'elle était joyeuse et qu'elle a accepté et que tout va bien et que la vie est belle et que voilà. Mais finalement, quand on rentre en profondeur avec elle en discussion dans un passage du livre, on comprend en fait qu'elle était vraiment, comme dirait, à côté de la plaque, c'est-à-dire qu'elle acceptait pas du tout et que elle montrait juste un certain masque à la famille, etc., pour dire qu'elle était forte. Mmh. Alors que Alia, effectivement, elle avait passé tous les process, mais genre, c'est-à-dire le refus, la colère, elle criait, elle était désespérée, à un moment frustrée, à un moment elle avait besoin de solitude, et donc on parle de tout ce socle de d'émotions qui font que même le lecteur, après les retours et les témoignages des lecteurs, ils me disent que ouais, écoute, moi je me suis retrouvée dans les émotions de Alia, mais moi je me suis retrouvée plutôt dans les émotions de la maman et d'autres. Donc moi effectivement, c'est en multipliant les personnages que j'ai essayé en fait de décrire le deuil le deuil vécu par chacun.
Les différentes formes d'expression
exactement.
Du deuil, c'est ça.
Exactement.
Est-ce que parfois...
Pour arriver au même résultat. Enfin.
Alors, j'ai deux autres questions peut-être. Déjà, la première, pourquoi c'est un récit en quelque sorte autobiographique. Pourquoi vous avez donné des noms à vos caractères alors que, en fait, c'est vous et votre famille?
Exactement. Alors, c'est une question que j'apprécie énormément parce que déjà, tout n'est pas mis au hasard. Alors moi, je m'appelle Samia et donc en arabe, c'est Wassoumo ou El Oulou. Donc j'ai préféré Alia. D'accord. Parce que au final, il y a aussi dans le livre tout est vrai, mais il y a des passages où je maquille la chose, où j'ajoute des choses que j'aurais aimé que ça soit le cas avant. Pour la deuxième personne, c'est Sherazade, c'est ma sœur qui s'appelle plutôt Aya, et donc c'est la petite princesse de la famille, disons, et donc j'ai préféré que ça soit Sherazade. Un autre personnage, c'est l'aîné, c'est Rahma, qui s'appelle Sophia en vérité, mais finalement, j'ai dit Rahma parce que ça a été une Rahma pour moi pendant toute l'aventure. Et évidemment, ma mère qui s'appelle Fatem Zahra, et j'ai changé à travers Nour parce que ça a été la lumière de la famille et c'était elle qui illuminait notre chemin à chaque fois qu'on déviait ou qu'on était vraiment contre l'idée de le perdre. Mmh. Et puis après, il y a le petit qui s'appelle Mohamed, mais j'ai changé par Selim parce que c'était quelqu'un de jeune. Enfin, aujourd'hui, il a grandi, mais il était à l'époque jeune. Et Selim, de toute idée négative, que ça soit au niveau de la famille ou du deuil, c'est-à-dire il comprenait absolument rien à ce qu'on vivait. Donc il était vraiment Selim des idées négatives de la vie. qu'on peut avoir. Donc vraiment, tout était calculé et c'était, disons, l'idée ou même l'image que je voulais donner à cette belle histoire.
Votre famille, justement, toute cette communauté autour de ce deuil, cette communauté a vécu le, a lu le livre, bien sûr.
Oui, évidemment.
Ouais. Bien sûr. Alors, quel retour ?
Alors, franchement, j'ai eu la plus sensible de la famille qui n'a même pas pu aller vers la deuxième partie, et donc elle m'a dit qu'il y a une description tellement vraie et tellement minutieuse que à chaque fois que je lis, je n'arrive pas et j'ai les larmes aux yeux et je pleure beaucoup. Mais elle a adoré, elle a beaucoup aimé et ils m'ont même soutenu pendant toute l'aventure de façon à le publier, à aller straight to the point. Ma mère, évidemment, elle a toujours été fière de moi et donc elle a beaucoup apprécié le fait que elle m'a dit en fait tu as décrit des choses que je ne vous disais pas et je sais pas comment tu as pu détecter ça. Je lui dis écoute c'est ça être quelqu'un qui fait attention aux petits détails. Évidemment tous les autres même Sofia ou même Mohamed ils étaient très contents, ils ont lu et relu le livre et à chaque fois en fait pour eux c'est comme une thérapie aussi. C'est-à-dire que, comme j'ai dit, la deuxième partie du livre, c'est vraiment un guide spirituel. Ça te fait du bien et en même temps, ça fait plaisir quand on n'est pas seul. Quand on se dit qu'il y a des gens qui ont vécu la même chose, ah ben tiens, c'est rassurant pour moi. Voilà, donc c'était ça en fait l'idée derrière.
Alors vous travaillez aujourd'hui domaine complètement différent.
Exactement.
Et on sait que enfin, c'est l'image qui entoure les consultants, c'est que c'est des gens en général dénués d'émotions, parce que quand ils arrivent pour une mission, ils doivent être neutres, ils doivent sortir leur rapport de façon neutre, ils doivent donner des recommandations, quitte à parfois devoir cut some jobs. Voilà, on calcule rien, on est là pour une mission, on délivre sans émotion. Dans ce livre, c'est beaucoup d'émotions. Alors d'abord, comment vous faites pour gérer aussi ce monde de consultants qui est un peu un monde de requins?
Oui, tout à fait. C'est sûr que c'est un monde de requins. Mais en fait, moi, je prends du bon côté, dans le sens où ça m'a permis aussi de gérer mes émotions. Je ne vous cache pas qu'au début, ce n'était pas du tout facile parce que quand on est une personne très émotionnelle et dans le partage, etc., des fois, on a un sens d'empathie énorme. C'est-à-dire qu'on rentre dans le corps de ce directeur général ou de cette entreprise de façon à comprendre un peu leurs problèmes, etc. Mais cela n'empêche que à un certain moment de mon expérience dans le consulting, j'avais compris que même si on a nos émotions, ça ne fait rien de les partager de temps à autre tout en restant professionnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la plupart de mes missions, des fois, ça m'arrive de donner mon propre avis, mis à part les recommandations assez, directives, etc. Je peux donner mon avis propre. C'est-à-dire que vraiment, j'essaye de rester fidèle à moi-même, quelle que soit la mission ou quelles que soient les personnes rencontrées. C'est vrai que ce n'est pas évident, c'est un monde de requins, c'est comme vous dites, mais tout dépend de la perception que nous avons du domaine, du consulting. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous devez être en capacité d'orienter votre client vers la voie que vous voulez de façon... Parce que lui-même, ça le rassure. Quand on est humain, quand on comprend un peu la situation, etc., c'est très rassurant pour lui. Et en même temps, c'est un moyen de bien placer les recommandations, même des fois qui sont assez difficiles à accepter par les clients. Donc, disons que je joins l'utile à l'agréable. C'est question de gestion des émotions.
Mais dans ce bouquin, vous vous mettez vraiment à nu en matière d'émotions. Est-ce que vous n'avez pas peur de ça, justement ? Samia, c'est une femme avant tout, c'est une femme qui a vécu une perte qui est très lourde, mais à l'extérieur, Samia, c'est la professionnelle. c'est la docteure, c'est, voilà. Est-ce que vous n'avez pas eu peur, en fait, de vous mettre à nu comme ça, dans votre contexte à vous?
Pas du tout. Non. Alors, vraiment pas du tout. Moi, en tant que personne, en tant que femme aujourd'hui, je suis quelqu'un qui s'assume en entier et je suis quelqu'un qui est assez entière. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'on est des professionnels que nous n'avons pas une vie personnelle. Mmh. Et puis après, bon, c'est vrai qu'à un moment, j'avais changé les noms du livre juste par respect à ma vie privée, disons, même si, bon, ça reflète effectivement 80% de ce que j'ai vécu. Mais au contraire, l'idée d'avoir peur d'être à nu devant le monde, au contraire, c'était un plaisir de partager la chose parce que je sais que chacun a ses histoires dans la vie, a des expériences qui a envie de les partager. Et si je peux au moins donner un brin d'espoir aux professionnels, aux lecteurs, etc., ce serait avec plaisir, au contraire.
Des collègues ont lu votre livre ?
Oui, oui, exactement. Oui. Ils l'ont lu, ils ont beaucoup apprécié. Il y en a ceux qui m'ont dit qu'on n'a jamais vu cette partie de toi, oui. Professionnellement parlant, etc. Ça nous permet en fait de te découvrir davantage et ça les a même permis d'orienter mes missions futures.
Oui.
D'ailleurs, je travaille aujourd'hui sur un hôpital au Maroc, en collaboration avec le ministère de la Transition numérique et le ministère de la Santé. Et effectivement, c'est en rapport avec l'oncologie. Donc, ça a un peu orienté les missions, surtout que j'ai ce côté, émotionnel envers les patients, envers les personnes qui souffrent, que ce soit de cancer ou d'autres.
Mmh. Vous n'avez pas peur de cette mission, Samia ?
Pas du tout, non. Pas du tout. Ça fait 3 mois ou 4 mois que j'y suis et franchement, ça se passe très bien. Et si je peux, comme je vous ai dit, apporter de l'aide dans les stratégies, c'est-à-dire à mettre en place ou les plans d'action à mettre en place en termes de satisfaction du patient au Maroc, au contraire, ça me fait énormément plaisir et je sens en fait que j'ai une touche inébranlable dans le processus ou le parcours du patient de manière générale au Maroc. Donc, au contraire.
Samia Benchkrouna, merci infiniment d'avoir été ma femme d'aujourd'hui.
Merci à vous, Yasmine. C'était vraiment un grand plaisir. Et franchement, comme je vous ai dit, je suis assez émotionnelle. C'est vraiment avec des larmes aux yeux que je fais cette interview avec vous parce que vous êtes déjà la femme du jour aussi.
Merci.
Et on apprécie beaucoup votre travail. Très, très bon courage à vous.
Merci
beaucoup. Très bonne journée.
Merci. Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Femme d'aujourd'hui et sa version homme, c'est du lundi au vendredi sur les ondes de Média et à tout moment, à la demande et en avant-première sur Média Podcast et les plateformes de podcast habituelles.